Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est tous les soirs un entretien d'une heure avec les artistes dans l'actualité culturelle et ce soir avec la réalisatrice Catherine Corsini.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bouda, bébé, bébé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
En 2015, Christine Angot publie « L'amour impossible ». Elle y décrit la passion amoureuse d'un homme et d'une femme, l'enfant qui en est, le combat d'une mère pour faire reconnaître son enfant. Elle y décrit une époque, plusieurs, où la parole se délie, les villes et les logements se modernisent, la vie des femmes approche des libertés jusque-là inconnues. Elle y décrit aussi l'inceste et le silence, l'aveuglement comme conséquence de la perte de confiance, la violence intime comme ressort d'oppression sociale. À sa sortie, elle dit de ce roman qu'il était une façon d'écrire ce que c'est que d'avoir une mère, de quoi c'est fait l'amour maternel, c'est-à-dire l'amour pour la mère et l'amour de la mère. Catherine Corsini, quelques années plus tard, vous faites de ce roman la trame de votre film, qui sort en salle le 7 novembre, et porté par Virginie Efira, Neil Schneider ainsi que plusieurs actrices pour le personnage de Chantal, le temps qui passe y est une sorte de personnage abstrait, central. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir.
Moi, si vous voulez, c'est vrai que j'ai fait beaucoup plus d'adaptations de romans que de scénarios originaux. Je dirais comme Renoir. Renoir a pratiquement fait, peut-être à part La règle du jeu, mais je crois que ça partait quand même d'une nouvelle quelque part ou d'un roman. Jean Renoir n'a fait que des adaptations. Bon. Et on dit que son œuvre est l'œuvre d'un auteur original. Bon. Moi, quand je fais une adaptation, j'ai vraiment... autant l'impression de faire œuvre originale que quand je pars d'un scénario original. Je veux dire par là que ce n'est pas forcément la fiction, l'anecdote fictionnelle qui me paraît le plus important. Si j'adapte un livre, c'est parce qu'il y a dedans suffisamment de matériaux, je dirais presque vitaux, comme dans un scénario original, j'adapte la vie. Dans une adaptation, j'adapte la vie que je perçois à travers un roman. Mais ce sont des choses qui m'émeuvent autant que des éléments, disons, de la vie. Donc, quand je fais un roman, tous les romans que j'ai faits, c'est parce que ils traitaient de choses qui sont ma chair et mon sang, enfin, qui me sont extrêmement personnelles, sinon je n'y aurais pas touché. Un roman comme Classe de neige, c'est un roman qui, j'aurais tendance à dire, qui dit mieux que je ne saurais dire à travers une fiction originale, qui dit ma vie, qui dit ce qui m'émeut, qui dit ce qui me touche. Qui dit... Donc je le prends avec l'autorisation de l'auteur et j'en fais un film. Et je sais que mon film, ça c'est toujours le problème de la vampirisation des écrivains par les cinéastes, va être un film de Claude Miller. Va être raté, réussi, peu importe, mais un film extrêmement personnel.
Catherine Corsini, on commence avec la voix de Claude Miller. On est en 1998 dans l'émission Le Bon Plaisir sur France Culture. Et donc, il fait cette distinction sans la faire entre scénarios originaux et adaptations de romans. Peut-être pour dire que dans les romans, il trouve des matières qui, d'un seul coup, lui permettent de s'approcher de lui très très fort. Il me semble que c'est une proposition qui est venue de la production de votre film, que de travailler sur un amour impossible. Est-ce que pour vous, il y a eu... une évidence qui a lancé le travail comme si c'était vous qui étiez à la plume tout de suite?
Bon, déjà, ça me fait plaisir d'entendre Claude Miller comme s'il était parmi nous. Voilà, c'est avec émotion que j'entends sa voix. Oui, c'est ma productrice, qui est aussi quelqu'un de très proche de moi, qui m'a donné le livre de Christine Angot. Je veux dire, donner le livre, on a l'impression qu'on m'a donné quelque chose comme ça. Enfin, c'était... Elle sentait qu'il y avait quelque chose de très fort, donc je sens dans ce passage du livre que j'allais découvrir, vous savez, comme quand on est enfant et qu'on ouvre une boîte et qu'à l'intérieur de cette boîte, Eh bien, c'est la caverne d'Ali Baba, les saveurs, les odeurs, les choses, tout remonte. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à ouvrir cette boîte, c'est-à-dire à ouvrir ce livre, parce que je sentais, je ne sais pas pourquoi, j'avais un sentiment, un pressentiment qu'il allait arriver quelque chose de très, très fort à cette lecture. Ce qui a été le cas. J'en suis sorti évidemment bouleversé, et évidemment, comme le dit si bien Claude Miller, si ce roman m'a touché de plein fouet, c'est qu'il y a énormément de choses dans lesquelles je me suis complètement retrouvé, dans lesquelles je me suis... Voilà, j'ai eu l'impression de vous savez, quand on est une petite fille et qu'on est habillée en rouge par sa grand-mère et qu'on ressemble un petit peu au petit chaperon rouge, bah c'est cette petite fille que décrit Christine Angot, mais cette petite fille, j'avais l'impression aussi que c'était moi. Quand tout d'un coup, on vous fait vivre dans l'image d'un père idéalisé, merveilleux, ben j'avais le même sentiment parce que j'avais vécu avec ma mère aussi et que mon père était mort. C'était pas la même histoire, mais il y a beaucoup de choses qui étaient proches de mon ressenti, de mon vécu. Mais la chose la plus importante que j'ai vraiment pris de plein fouet et que j'ai ressenti, parce que moi aussi, venant d'une famille avec beaucoup de femmes, qu'est-ce qu'elle raconte et qu'est-ce qui se raconte dans ce roman et qu'est-ce qui fait que pour moi c'est très important, c'est l'infériorité des femmes. Les femmes sont tenues dans un état d'infériorité intellectuelle. C'est quelque chose dont elles ne se rendent même pas compte. C'est quelque chose dans lequel elles vivent comme si c'était naturel. Et je me suis souvenu tout d'un coup, tout est revenu, ma grand-mère, mes tantes, enfin tout. Donc c'est en quoi le roman juxtaposait des sentiments extrêmement précis, effectivement, de la place était dévolue aux hommes, la vie, voilà, s'arrêtait de tourner pour servir les repas, pour le grand-père qui faisait sa thèse, tout le monde s'arrêtait de travailler, les femmes étaient en cuisine. Ben voilà, il y avait quand même un truc, et des femmes qui travaillaient et des femmes qui étaient battantes, voilà, parce que on est aussi dans un moment d'évolution de la société où les femmes s'engagent, travaillent. Donc voilà, tout ça m'a beaucoup plu dans le roman. Et puis, en tant que cinéaste, j'y ai vu déjà une dramaturgie. Je me suis dit, ce roman, il y a une dramaturgie incroyable. Parce qu'il y a une femme qui se fait, j'allais dire, abuser, qui se fait, qui est dans un... Je disais toujours, la première partie du film, c'est le ravissement. C'est très beau d'être ravie par un homme. Mais elle est ravie par un homme qui est pas le bon, enfin dans tous les cas, qui va s'avérer vraiment être le méchant, comme c'est dit
comme
à la
dit
fin.
La fille, ouais.
Donc elle est ravie par cet homme, et puis de ce ravissement, elle va dégringoler et elle va se relever. Et je, en lisant justement et en ayant un peu une hauteur de cinéaste, je sentais que déjà dans ce roman, il y avait une dramaturgie proche du mélodrame. Et comme le mélodrame est une forme qui m'intéresse énormément, parce que je trouve que par la forme aussi, on est plus fort parfois pour toucher les gens à un endroit. Donc il y avait beaucoup d'éléments pour vraiment travailler ce scénario et en faire un film. Enfin, ce roman et en faire un film.
c'est que la dramaturgie était tellement présente dans le scénario qu'il était déjà, dans le roman qu'il était déjà scénario. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, peut-être en revenir sur l'une des choses qui vous frappe le plus, à savoir la place des femmes. Par conséquent, et très rapidement, on voit que votre choix est franc. Le film ne sera jamais que depuis les femmes. C'est-à-dire que cet homme qui est très important, qui en effet ravit la mère, qui ensuite abuse de la fille, qui est porteur de la violence sociale, entre autres, il reste satellitaire. Il reste à l'extérieur, comme si vous aviez fait un film qui donne la grande place et la grande vision à ces femmes-là.
En dehors du fait du roman de Christine Angot, qui, comme vous le soulignez au début, se demande qu'est-ce que c'est, enfin le son rapport à la mère, moi c'était plutôt dans l'idée, c'est pour ça qu'une adaptation aussi, c'est le point de vue du metteur en scène sur le roman.
Ce que disait Miller, hein.
Oui.
À la fin, ça sera un film raté ou réussi, mais ce sera un film de Miller.
Mais ce qui m'intéressait, c'était comment d'abord cette femme ne voit pas son angle mort, l'angle de son aveuglement, comment naît cet aveuglement, comment il est créé par effectivement l'endroit où elle est inférieure, elle se sent inférieure, où on la met, on la place, alors que finalement on voit au contraire une femme qui est d'une grande intelligence, etc. C'est ça qui est doublement cruel, c'est que on se dit mais au secours, tu vois, tu es bien plus forte que lui. Et puis effectivement, il y a aussi quelque chose là qui est aussi assez proche de quand même de ce que je lis, c'est que je lis un roman où à l'inverse de ce qu'on a pu voir dans les autres romans de Christine Angot. Alors moi j'avais tout le off des autres romans que j'avais pu lire, mais dans ce roman, il y a une extrême pudeur. Voilà, c'est les scènes auxquelles la mère assiste, ce qu'elle voit. Et effectivement, quand elle voit sa fille rentrer, c'est le ressenti de sa fille sur ce qui s'est passé avec le père, mais rien ne lui est dévoilé. Comme la fille n'ose pas parler, qu'est-ce qu'elle peut en comprendre? Et c'est, voilà, ce qu'elle comprend, c'est qu'elle est une mauvaise mère. Qu'elle se comprend, c'est qu'elle se met tout de suite à la place de c'est de ma faute, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez ceci, je ne t'ai pas assez apporté. Et tout de suite, ça c'est le conditionnement fait, et c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que c'est le conditionnement de cette femme qui en plus fait qu'elle ne voit pas, donc c'est la double peine, c'est la triple peine, c'est vraiment, vraiment terrible.
Une fois que vous êtes lancé dans ce travail d'écriture et d'adaptation et que votre regard et celui de celle avec qui vous avez écrit a peut-être pris le dessus sur le texte, il a fallu choisir des gens, choisir des corps, choisir des visages, faire des choix de réalisation. Peut-être on peut parler de ce couple du ravissement et de la passion première, Virginie Efira et Nils Schneider. C'est une gageure pour ces deux-là que de tenir le film de bout en bout, puisqu'ils sont aussi la marque du temps qui passe. Comment les avez-vous choisis, Catherine Corsini?
Alors, c'était compliqué parce que je m'étais dit je ne pars dans cette histoire que si j'ai des acteurs en tête, parce que je vois pas quelle actrice déjà va pouvoir mener un rôle qui va de 27 ans à, dans le roman c'était 85 ans, disons, même là si j'ai un tout petit peu triché sur la fin, mais enfin 70, 75 ans.
Très âgée, quoi, à la fin.
Donc comment est-ce que je vais prendre deux actrices, comment je vais faire, etc. Et puis évidemment, j'ai commencé à écrire et j'avais pas d'actrice en tête, et puis on a terminé le script. Et j'étais toujours comme ça, un peu en cherchant, en collant des visages d'une actrice avec une autre, enfin c'était assez marrant d'ailleurs. C'est un document assez drôle. Mais bon, j'avais pas de coup de foudre. Bon, et puis je sais maintenant, parce que c'est une coquine, Virginie Efira, c'est qu'elle avait lu le roman et qu'elle savait qu'il y avait un scénario qui en était tiré, et on s'est approché par une émission de radio, justement, on s'est rencontrés, mais je crois qu'elle a fait en sorte que j'y sois aussi. Et elle a brillé de tous ses feux. Je ne sais pas si elle a fait. Et je suis sortie de cette émission en me disant mais cette fille, elle a beaucoup de choses qui sont proches du personnage. Elle a ce côté très concret. Elle est vraiment ancrée dans le sol. Elle a cette franchise. Elle a cette intelligence. Elle a une espèce de dignité, de force, parce que le personnage de Rachel est quelqu'un quand même de fort, comme ça, qui se sort toujours. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un, fallait pas prendre quelqu'un qui soit déjà écrasé par la vie. C'est quelqu'un de solaire, de lumineux, qui va être brisé, qui va être cassé, mais qui rejaillit toujours. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose d'étonnamment, enfin voilà. Et puis, j'ai fait savoir que j'avais envie de travailler avec elle, mais que comme je ne la connaissais pas vraiment, comme une actrice de dramatique, est-ce qu'elle acceptait qu'on fasse vraiment une grande journée d'essai ensemble, ce qu'elle m'a accordé. Et on a fait vraiment une journée d'essai comme on imagine à l'ancienne, avec vraiment le chef-op qui vient, des costumes, du maquillage, une perruque pour essayer de voir en tirant un peu de la jeunesse, qu'est-ce qu'on pouvait obtenir, etc. Enfin, des acteurs qui sont venus vraiment donner des répliques, qui savaient le texte. On a fait vraiment un vrai travail. Et c'est drôle parce que c'est vraiment les prémices du personnage de Rachel qui se dessinent, qui ne seront pas évidemment même la Rachel qu'elle va jouer plus tard, mais qui sont déjà un embryon. Et c'est toujours quelque chose de très très particulier pour un metteur en scène de voir tout d'un coup son acteur commencer à exister, mais qui ce n'est pas encore le personnage tel qu'il va être, mais il y a des éléments. Et moi j'ai pas besoin d'en savoir plus, je veux pas en savoir trop, parce que si j'en sais trop, c'est gâcher ce qu'il va y avoir après. Mais il faut juste être au bon moment pour se dire, parce que je me souviens, la Christine nous disait mais pousse-la encore plus, et moi j'ai dit non, je veux pas, c'est sur le plateau que je vais faire ça.
Ça confirmait votre intuition,
voilà,
en fait.
C'était juste de sentir que paf, c'était ça. Donc voilà, donc ça c'était fait, c'était ok, on est parti là-dessus. Après, il fallait choisir quel allait être justement l'antagoniste, le méchant, le fascinant, qui est décrit dans le roman justement plus par quelqu'un qui n'était pas très beau. Mais au cinéma, comment on incarne la domination, si ce n'est que par la parole, etc. J'avais quand même envie que cette domination soit incarnée par quelqu'un qui opère un charme physique, qui opère quelque chose de fort, au niveau de et puis je voulais aussi, même dans le film plus tard, montrer cette domination aussi sur le fait qu'il y a un accord sexuel très fort qui n'est pas forcément toujours décrit de cette manière-là, mais ça c'était ma vision de je voulais montrer qu'il y avait quelque chose aussi qui fait que cette femme se perd avec lui, c'est qu'il l'entraîne à un endroit d'une sexualité corps, assez crue, etc. Parce qu'on imagine plutôt une espèce justement d'amour dans le noir, etc. Alors que là non, il est là, il l'observe, il la regarde, il met son corps en avant. Donc bon, tout ça, voilà, faisait partie de voilà, il fallait quelqu'un d'abord qui accepte de jouer cette d'une manière assez lucide, assez crue, toutes ces scènes. Et donc voilà, donc je cherchais quelqu'un qui ait une espèce de charme et en même temps du mimétisme, comment dire. Je cherchais en fait, dans ma tête, je cherchais Maurice Ronet, quoi. C'est l'acteur du Feu Follet, c'est cet acteur qui est un acteur magnétique, qui est un peu un trintignant. Enfin voilà, c'était dans ces zones-là que je cherchais cet acteur. Et j'avais des idées. À chaque fois, je me disais, mais lui, ça va être un peu confortable, c'est un peu attendu. Et puis, je me suis dirigée vers Neil Schneider, mais d'une façon, j'allais dire, un peu... je sais pas comment dire, je sais pas pourquoi je suis allée chercher Nils. C'était pareil, une espèce de... J'ai presque dit son nom un dimanche, comme ça. Je me suis dit, ça y est, mais lui, je suis sûre que c'est une bonne idée. J'ai pris rendez-vous, on s'est vu. Je me suis dit, oh là là, il est beaucoup trop jeune, ça va pas le faire. Et en fait, il est arrivé aux essais. Je lui avais dit que je le trouvais un peu jeune. Il est arrivé aux essais et il a tout de suite compris qu'il fallait qu'il joue l'emprise. Une espèce d'emprise intellectuelle, une espèce de séduction et parfois un certain mépris un peu glaçant, une espèce de manière de la regarder à distance et en même temps de revenir. Et voilà, et tout de suite, il m'a conquis complètement dans le personnage, mais tout de suite, quoi, je suis sortie, j'ai même pas attendu que Virginie me dise, alors comment tu le trouves? J'avais les yeux, j'avais le cœur et j'étais, voilà, je me disais, ça y est, c'est bon, j'étais complètement emportée par le couple. Je me disais, ça se passe, il y a quelque chose qui se passe et ça va être dangereux, il faut que ça soit dangereux. Et c'était ça qui était important. C'était là où je me disais, il faut pas que j'ai un acteur confortable, il faut que j'ai un acteur qui soit extrêmement à vif comme ça avec elle, qui la déstabilise, parce que c'est une femme qui est forte. Et je trouvais voilà que le couple fonctionnait bien, et c'est pareil, je n'ai pas eu besoin d'en savoir plus. Ensuite, on a construit les personnages ensemble, c'est-à-dire que les costumes, le travail sur le costume a été très important, tous ces rendez-vous quotidiens, parce que évidemment, quand on fait un film d'époque, il faut travailler beaucoup sur les silhouettes, etc. Toutes ces questions qu'on s'est posées après le travail sur le vieillissement, sur le corps et tout, a fait que le travail de préparation a été assez long et a fait que les acteurs se sont été gagnés par l'époque, par le personnage, par les détails, parce qu'une séance aussi de costume, on se pose plein de questions, on discute sur autour du rôle, etc. Donc tout ça a nourri extrêmement, de manière très riche, tout s'est assemblé un petit peu, les choses se sont assemblées comme ça. C'est ça qui était assez merveilleux dans le travail.
Depuis le début, mon père éjaculait toujours sur son ventre, selon l'accord qu'ils avaient pris. Ce jour-là, il lui a demandé s'il pouvait décharger au fond d'elle. Elle a dit oui.
Tu réfléchis si tu veux venir à Paris?
Oui, mais je te dirai.
C'est une très belle journée hier.
Corsini, on écoute un extrait sonore d'Un amour impossible
pour entendre la musique et pour entendre la manière dont vous l'utilisez. Vous parliez des costumes, du vieillissement. Mais en fait, c'est aussi ce piano, cette ritournelle qui revient, dont vous l'utilisez pour dire que le temps passe. Et en introduction, je disais qu'Un amour impossible, pour moi, a une sorte de personnage principal, abstrait, théorique, omniprésent, qui est le passage du temps sur la douleur, sur l'amour, sur la passion physique, sur le lien filial, comme si c'était une sorte de film fantôme, quoi. Je fais aussi un film là-dessus.
Oui, parce que le temps, pour moi, a toujours été quelque chose de très présent dans ma vie, déjà. J'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de vie. Je suis quelqu'un de très nostalgique. J'ai aussi été en partie à un moment toute petite élevée par mes grands-parents, donc dans un temps déjà très très ancien, parce que les souvenirs de mon grand-père, c'était la guerre de 14, la mort de ses frères. Donc c'est vraiment toute une histoire de vie qui jusqu'à aujourd'hui. Ça fait voilà c'est comme un long fleuve, ça charrie beaucoup de choses, quoi. Alors évidemment, ce passage du temps, la musique dans le film y est très importante, j'y suis très attachée, parce que je voulais aussi que le film ne soit pas un film noir, soit un film lumineux, soit un film justement qui montre que la vie, elle est plus forte, même quand on a des coups difficiles. La vie, elle apporte aussi, il y a des merveilles, il y a des choses, et c'est ça aussi la force de Rachel, c'est qu'elle ne retient par moment que ce qui est beau, quoi. C'est qu'à un moment, il faut vraiment aller loin pour la mettre dans un état de sidération. C'est que pendant longtemps, elle a quelque chose d'extrêmement positif avant d'être abîmée. Mais quand même, vous commencez là cet extrait par la voix off, qui est aussi quelque chose de très important dans le film, parce qu'elle conduit justement cette voix, elle conduit le temps. Et cette voix off qu'on a écoutée tout à l'heure au début, quand elle dit il a éjaculé, c'est la première fois qu'il éjaculait, voilà.
Il lui a demandé l'autorisation de décharger en elle.
Voilà. Et cette phrase, elle est très importante, parce que elle vient sur une image extrêmement bucolique, extrêmement champêtre de leur dernière journée où ils cueillent du muguet, ils arrivent dans une clairière qui est envahie de muguet. Donc déjà, on voit que la voix off, elle casse, elle brise, elle abîme. On sent qu'elle commence, le film commence à se détraquer, à s'assombrir par moments, justement, à ce que, entre l'image et le son, on soit pas au même endroit. Et puis après, on reprend quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus, on est amené par quelque chose, par cette musique, justement, par quelque chose de très déchirant, et on arrive aussi sur un plan où je me suis vraiment aussi amusée à rendre un hommage à Jacques Demy dans Les Parapluies de Cherbourg, aussi à ce train qui part et on sent son immense tristesse parce que le temps, c'est ça, c'est tout d'un coup la tristesse, les départs, les arrivées, enfin ça fait partie aussi de beaucoup de mes films, les gares, les trains, c'est quelque chose qui m'a hanté, les départs, j'ai toujours été bouleversée par les départs, donc je me suis dit cette fois-ci je fais un départ encore plus bouleversant, parce que c'est le départ le plus bouleversant que j'ai jamais vu, c'est dans Les Parapluies de Cherbourg, donc je m'autorise à pas copier, mais à faire à la manière, à ma manière,
à
moi,
voilà, à citer,
voilà. Donc et puis ensuite il y a aussi avec cette musique le côté très très de Virginie qu'on a vu, enfin de pardon, de Rachel qu'on a vu au cinéma avec Philippe, il l'emmène découvrir des films, on la voit qui regarde Jeanne Moreau dans Ascenseur pour l'échafaud, et on voit déjà que Ascenseur pour l'échafaud, ça va être un tout petit peu en miroir ce qui va lui arriver, et tout d'un coup il y a presque une similitude quand elle descend les et quand elle marche après ce départ dans les rues, qu'elle est complètement, et c'est un moment très très qui est décrit aussi de manière assez longue comme ça dans le roman, et que je trouvais assez forte de revisiter. Vous savez, quand vous revisitez les rues où vous avez aimé quelqu'un, où vous avez il y a quelque chose de d'une grande beauté, dont on a des souvenirs tellement émus, et puis tout d'un coup on est là, et puis on est seul, et puis on est seul comme un chien, et puis on sait pas ce qui va se passer, et puis l'avenir s'assombrit, et puis tout se rétrécit, c'était ça, c'était avec cette musique qui coule. Il fallait trouver pour le mouvement du temps une musique qui coule, qui amène justement cette chose qui sépare ces petites notes de piano, ta-da-da-da-da-da, qui font glisser, et on sent justement comme le temps qui s'écoule, quoi.
Et ce temps-là, il est d'autant plus, dans cette scène en tout cas, il est d'autant plus important, il est d'autant plus poignant, qu'on sait que en fait il vient d'avoir une enfin la conception vient d'avoir lieu et que l'enfant en fait vient de cette phrase crue qu'on entend poser sur cette scène champêtre bucolique et amoureuse qui est il lui a demandé la permission de décharger en elle et que c'est le début d'une autre histoire Catherine Corsini et c'est assez fou parce que c'est aussi le début d'une vie que signe ce train, ce piano, un autre temps qui commence.
Oui, c'est très très vite un autre temps qui commence, le temps de la naissance de Chantal. Il y a juste avant, il y a justement la conception, le fait qu'elle découvre qu'elle est enceinte, le fait qu'elle essaye de lui dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'elle il ne répond pas, que parce qu'il y a aussi tous lui il manipule beaucoup le temps, parce que il ne répond jamais. Précisément quand elle m'envoie une lettre, puisqu'il faut dire qu'on est à l'époque où on s'envoyait du courrier, on attendait le retour du courrier, donc ça aussi c'est assez merveilleux et à filmer et à montrer. On n'est pas du tout dans un temps comme aujourd'hui d'immédiateté.
De réponse.
Il faut attendre une réponse et ce film est beaucoup aussi un film sur l'attente de cette femme qui attend des réponses. Et donc il manipule le temps et elle va lui annoncer, elle part pour lui dire et puis c'est là où il lui dit mais moi je t'ai toujours dit que je me marierais pas avec toi voilà que si t'avais eu de l'argent oui mais comme tu n'en as pas donc voilà c'est toujours des réponses extrêmement vives et extrêmement comme il le dit lui-même honnête il ment pas sauf que c'est d'une violence inouïe et effectivement c'est aussi cette acceptation qu'elle va se faire peu à peu d'avoir aimé ou d'aimer un homme assez terrible, mais dans cette acceptation, elle sait que à un moment, ils se sont dit ensemble qu'ils faisaient cet enfant ensemble et que c'était un enfant qui était né de l'amour. C'est un enfant de l'amour pour elle et c'est ça qu'elle va continuer à donner comme image à sa fille. Et effectivement, on clôt cette histoire, ce moment qui pourrait être juste un film, un moment dramatique d'une femme abandonnée par un homme, d'une femme qui va avoir une vie avec un enfant qu'elle va élever seule, sauf que la deuxième partie, enfin dans tous les cas la suite, est encore plus, j'allais dire, plus dramatique et plus folle et plus forte encore que ce début qui est presque classique, quoi.
Et justement sur le classicisme, je voudrais qu'on revienne sur le parallèle entre les films qu'elle découvre avec cet homme, la culture aussi, et ça participe de son ravissement et de son émerveillement, parce que c'est un homme qui l'ouvre à une dimension, elle le dit d'ailleurs, qu'elle ne pouvait pas imaginer. Et c'est comme si elle était en train de vivre le film qu'elle pourrait être en train de regarder à cette époque-là, Catherine Corsini. Comme si votre film travaillait aussi ce que le cinéma propose comme ouverture aux vies possibles.
Bah moi ça c'était mon grand dada, c'était l'idée de faire vivre à cette femme, de lui donner aussi l'occasion à cette femme, à Rachel, de revivre sa vie comme si c'était une grande héroïne de film et de la remettre dans les mélos de ses années 50. Donc j'ai pensé évidemment à Douglas Sirk, de lui faire cette place, de lui offrir cette place, de lui offrir cette place d'être une héroïne de film alors que c'est une petite humble secrétaire de province. Eh bien justement, je voulais lui donner cette place là. Et ça pour moi c'était très 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 important. Et évidemment, le film, après, il passe de cette époque, de ces grands films sorkiens, j'allais dire, enfin, ils n'en sont qu'une émanation, mais, et après, on va glisser vers des films plus réalistes, vers quelque chose qui va effectivement épouser aussi un peu le style des films, il évolue avec le cinéma, d'une certaine manière, quoi.
Avec un déplacement de la voix off, d'ailleurs, hein, qui se modifie, c'est-à-dire que d'un classicisme, il arrive vers des choses plus rugueuses, plus économes en mots, un petit peu moins présentes, d'ailleurs.
Oui, la voix off, au début, elle épouse carrément, même parfois, elle surligne ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'elle est presque comme aussi à côté presque un roman photo, enfin il y a quelque chose comme ça de très premier degré et puis après justement comme sur la voix sur le Muguel, elle commence à agacer l'image et à la corrompre et puis après elle devient de plus en plus sèche, de plus en plus et puis presque à la fin il y en a plus puisque en plus cette voix est reprise par le personnage
de Chantal,
à la fin qui devient voilà qui dit on comprend que c'est elle qui raconte ce que l'histoire donc effectivement elle est prise en charge quoi.
Et elle distord l'image, elle nous informe aussi quand parfois le personnage de Rachel est aveugle. Je pense à cette phrase qui, évidemment, à la fois dans le roman et dans le film, nous serre le ventre avant même que qui que ce soit puisse comprendre qui est juste avant de partir. Il était venu me voir dans ma chambre et on comprend que la violence commence et que la relation entre le père et la fille devient incestueuse et devient l'enfer de cette adolescente. Et ça, c'est vraiment la voix off qui l'induit sur une image si calme.
Si calme dans la chambre, on sent déjà qu'il est quand il prend la valise, qu'il a un regard assez particulier sur elle. Hein.
Mais je veux dire si calme, si.
C'est et puis on voit bien que la mère attend et qu'elle se doute de rien. Mais dans tous les cas, c'est très important parce que ce moment-là de la voix off, on l'a évidemment. J'allais dire, on a essayé beaucoup de choses au montage, parce qu'à un moment, cette voix off, c'était comme, elle nous guidait, mais c'était comme un pulse, et comme un rébus, et comme un, j'allais dire, c'est, parce qu'il y a un côté, presque dans cette histoire, comme un thriller. Est-ce que le méchant va revenir? Est-ce qu'il va mettre le coup de couteau ou pas, quoi? Il y a presque ça. C'est-à-dire est-ce qu'on va vivre le bonheur de cette mère et de cette fille? Et puis que ça va être des relations mère-fille, comme on peut en voir dans un film différent, dans tous les cas, plus intimiste, etc. Mais tout d'un coup, non, il est relancé par, on a aussi, et c'était ça aussi dans la structure qui était absolument dément, c'est que il est comme le metteur en scène. Il vient tout d'un coup, paf! Il induit un rythme, paf, il dit je vais faire ça, paf. Enfin, donc il y a quelque chose d'assez incroyable de comment il mène le jeu, il mène la danse. Bon.
Par la présence-absence. Par la présence-absence.
Et cette voix off, donc, au montage, elle était, effectivement, elle nous guidait parce que, exactement sur cette voix, il était venu me voir dans ma chambre. À un moment, on avait, et c'est là que ça a commencé. Et on a fait des projections entre nous, hein, parce qu'évidemment, c'était très, très fin. De ce qu'on devait choisir ou ce qu'on devait ôter ou de ce que voilà ou de ce qu'on devait suggérer ou pas. Et à un moment on s'est dit non, c'est trop, non, il faut garder. Et à un moment on a retiré toute la voix off de ce moment là hein, par exemple, et on se disait mais il là, manque quand même, il faut un indice, et où on met l'indice, à quelle image on le met. Donc c'était génial hein, mais c'est un travail, c'est un casse-tête de dingue, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail de montage que j'ai fait avec Frédéric Bayèche qui est un monteur vraiment extrêmement fort et puissant, j'allais dire, parce qu'il a su guider par moments mes interrogations, parce que c'était ça rendait un peu fou de se dire oui, non, enfin voilà, c'était vraiment c'était hyper riche. Parce que ce que ça induit, ce que ça provoque, et qu'est-ce qu'on choisit? Parce que finalement, un film et être un cinéaste, c'est toujours qu'est-ce qu'on choisit à la fin? Parce qu'on a plusieurs options, qu'est-ce qu'on choisit? Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se mettre, d'être tout le temps face au choix. Et c'est aussi ce que raconte le film. Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Catherine Corsini.
Time in my life, my eyes are wide open. Oh, my lover, for the first time in my life, my eyes can see. I see the wind, oh, I see the tree. Sorrow.
Comment ça?
Enfin, Madame Steiner, on n'a pas 8 de tension comme ça pour rien. Rhabillez-vous. Comment est votre appétit en ce moment?
Normal, je dirais. Enfin, je suis pas très fort, mais je mange.
Et votre sommeil?
Oui, ça, je suis fatiguée. J'ai quand même du mal à m'endormir.
Mais quand vous dormez, vous... Une fois que vous êtes endormi, vous dormez d'une traite, hein? Jusqu'au bout?
Non, il y a des coupures. Des fois, je me réveille un peu.
Ça vous arrive de faire des insomnies?
Oui, parfois. Pas beaucoup. 2-3 fois par semaine, peut-être.
Madame Steiner, pour moi, en tant que médecin, vous présentez actuellement des signes nets de dépression.
Oh non, docteur, je suis pas quelqu'un comme ça.
Mais c'est pas une maladie honteuse. Ça arrive à n'importe qui. Selon les moments de la vie, est-ce que vous traversez des difficultés particulières en ce moment? Au travail, à la maison?
Oui, oui, c'est... C'est difficile.
Qu'est-ce qui est difficile, madame?
Un ensemble de choses. On a déménagé, donc... on a perdu tout notre entourage. Enfin, c'est un entourage familial, mais bon, ça compte. Alors, j'ai personne... chez qui je pourrais passer, ou à qui je pourrais téléphoner, ou... Et j'ai besoin de parler des fois, je crois.
Bien sûr.
Parce que j'élève ma fille seule depuis qu'elle est petite, et c'est un grand bonheur, mais c'est pas toujours facile.
Qu'est-ce qui est pas facile, madame?
Quand elle était petite, elle connaissait quasiment pas son père. Et là, ils ont repris contact. Enfin, il a repris contact avec elle, et ils font connaissance, et ils l'emmènent en week-end, tout ça. C'est une bonne chose, bien sûr, mais c'est compliqué.
Qu'est-ce qui est compliqué?
C'est un homme cultivé qui lui apporte beaucoup de choses. Et moi, de mon côté, je lui apporte plus rien.
Catherine Corsini, c'est un extrait de votre film Un amour impossible, et pour moi c'est vraiment un extrait fondamental, le tête-à-tête entre Rachel, cette femme, et le médecin, interprété par Pierre Salvadori, pour plein de choses, et probablement d'abord pour l'écoute de ce médecin et la manière dont il reprend chacun des mots qui terminent la phrase de Virginie Fira, pour les lui renvoyer, et nous, en tant que spectatrices et spectateurs, on est là, est-ce qu'elle va lui dire? Est-ce qu'elle a vu? Est-ce qu'elle va lui dire que ce qui est compliqué, c'est que le père abuse de la fille, et ça ne se passe pas, mais ça dit aussi à un moment dans cette époque que vous rendez à l'écran, un moment de mise en route de la parole, c'est pas rien, elle est secrétaire dans un hôpital psychiatrique avec des méthodes un peu nouvelles, on entend passer la question de la psychanalyse, on entend passer le mot de la dépression, elle dit j'ai envie de parler. Pour moi c'est vraiment un aspect très très important de votre film, Catherine Corsini.
Alors, cette scène me serre le cœur à chaque fois que je l'écoute. Déjà, je voulais aussi remercier mon ami Pierre Salvadori, parce que effectivement, dans la manière dont il attrape cette écoute, c'est vraiment merveilleux. C'était pas facile à faire. Et puis, ce qui est aussi le souvenir de cette scène que j'en ai, c'est qu'elle est découpée en 3 plans. Et en fait, il y avait un plan séquence, et on, dans la durée, pareil, ça c'est des questions de montage, de rythme, on était assez loin d'eux, et c'était un peu dommage de pas s'approcher du visage de Virginie, mais on avait un plan séquence qui était extraordinaire, et à chaque fois, je me dis, c'est dommage, on le casse, après, elle était aussi extraordinaire, mais c'était de se demander à quel moment fallait couper, à quel moment fallait aller là, etc. C'était incroyable comme décision, parce que Virginie était vraiment, vraiment à chaque fois hyper émouvante et dans chaque prise, il y avait des choses différentes. On entendait plus ou moins. Donc voilà, donc c'était une scène qu'on a longtemps découpée de plusieurs façons parce que il y avait des possibilités infimes et à chaque fois c'était vraiment un travail absolument remarquable, je trouvais, et beaucoup d'émotions. Alors effectivement, dans ce film, et c'est là aussi ce qui est complètement paradoxal, c'est que lui qui est montré, comme elle dit, il est intelligent, il est cultivé, il lui apporte beaucoup de choses. Comment elle parle du père. Mais elle, cette femme, évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'elle est une humble petite secrétaire de province et puis qu'elle va acquérir beaucoup plus de choses. Elle va s'ouvrir sur le monde. Elle va travailler effectivement dans un hôpital psychiatrique. Elle va avoir des conversations, comme elle dit un moment, avec des psychiatres. Elle va s'interroger sur le monde. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir énormément jusqu'à la fin du film. On voit que c'est une grande lectrice, qu'elle a lu Proust. C'est quand même quelqu'un qui s'ouvre. Alors que lui, pour moi, de ce qu'on en voit, dans tous les cas, on a plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui se rétrécit sur un monde un peu morbide et donc effectivement c'est tout, et en plus elle est toujours effectivement à cet endroit, comme je le disais au début, d'infériorité, c'est-à-dire qu'elle se dit moi j'apporte plus rien, moi je sais pas, moi j'ai pas cette culture, etc., alors qu'elle a tellement de en puissance, tellement d'autres choses, mais elle ne s'autorise pas, elle n'est pas convaincue de qu'elle a cette intelligence. Il y a une scène, moi, que je trouve, une petite scène comme ça, que je trouve très anodine et en même temps qui en dit beaucoup, c'est quand elle est reçue justement à ce concours où il y a 500 candidats et elle est reçue première et la fille va lui porter lui ouvre la lettre et lui dit mais maman t'as été reçue première, tu te rends compte, et qu'elle est là et que non elle s'en rend pas compte, elle se permet pas, et c'est pour ça qu'elle est dans cette espèce de dévotion à cet homme, et c'est pour ça que moi ce film me touche aussi beaucoup, et ce sujet, parce que c'est quelque chose que j'ai aussi entrevu dans ma famille, de la place des femmes et on leur impose le fait de ne pas croire justement qu'elles ont les capacités de faire plus que là où on les met, et je le vois tellement, je l'ai vu tellement, qu'effectivement moi ça peut me mettre en colère. Et en même temps, ça crée un endroit de un peu ridicule de non-pensée, parce que comme on s'autorise pas, on reste figé à cet endroit et on n'arrive pas à ouvrir le. C'est comme si, vous savez, c'est un geôlier qui vous met un masque, ou qui vous met un endroit, qui vous met des marques, et comme ça vous pouvez pas regarder ailleurs.
Et c'est d'ailleurs le terrible, sans faire aucune lecture simpliste, mais c'est le terrible endroit de son aveuglement, c'est-à-dire que à la fin du film, quand se posera la question de pourquoi tu n'as rien vu, pourquoi tu n'as rien senti, comment ça se fait que cette mère n'a pas pu avoir le regard sur l'abus que subissait sa fille, elle lui répond parce que je n'avais plus confiance, en fait. Parce que je croyais que ton mal-être, ton silence était dû à mon manque d'intérêt, au fait que j'étais une mauvaise mère, etc. Donc ce manque de confiance, qui est un manque de confiance intime, mais qui est aussi un manque de confiance produit par le collectif, produit par la société, l'emmène aussi à l'aveuglement de la violence subie par sa fille. Dans un monde qui, par ailleurs, commence à promouvoir la parole, on va être en mesure de pouvoir dire ces choses petit à petit, à dire la dépression, aussi à dire l'inceste. Donc c'est vraiment, c'est une position très violente.
Oui, mais c'est-à-dire qu'en plus, c'est une position violente, et puis elle a affaire à quelqu'un qui est extrêmement retors.
Pervers.
Il fait tout pour l'amener, justement, tout d'un coup, à lui qui vient jamais, lui qui ne s'est jamais occupé d'elle, tout d'un coup il lui demande s'il peut s'occuper de sa fille et elle accepte, et il repasse même pas la voir, il la met toujours dans un état d'humiliation, il cherche tout le temps à l'humilier, et cette humiliation fait qu'elle, elle se sent, bah, elle se met à cette place d'une personne qui se sent incapable, à qui on ne donne pas le droit. Donc alors il y a quelque chose en même temps de paradoxal, c'est que je trouve que cette adolescente, cette jeune fille qui est abusée par son père, deux ans après, elle réussit à ce que ça soit dit. Elle réussit à faire entendre ce qu'elle vit, ce qu'elle subit. Et quand même, cette intelligence, cette force qu'elle a, vous savez bien, et ça je l'ai observé aussi parce que j'ai évidemment interrogé d'autres gens. Je suis sorti du roman pour aller aussi piocher dans la vie d'autres gens. Et parfois il y a des personnes qui ont mis des années, qui ont 50 ans, 60 ans et qui ont jamais réussi même à oser le dire à leur famille, qui ont vécu dans ce chaos total. Donc quand même, c'est quand même sa mère qui lui transmet aussi d'une certaine manière cette force, à un moment, de pouvoir aussi, je trouve, enfin dans tous les cas, c'est mon interprétation, hein, de pouvoir dire, je pense qu'il y a l'intelligence du père, mais il y a l'intelligence de la mère. Et à un moment, elle réussit quand même elle réussit d'une manière très 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 tordue, parce que on peut être que tordu à un moment. Quand on est tordu par cette vie, on se tord soi-même les choses.
Donc elle passe par un homme convoité par sa mère.
Voilà, c'est ça, c'est un truc. Et moi, je trouvais que c'était intéressant. Il faut montrer que la vie, elle est faite de toutes ces choses qui sont, qui font qu'on passe par des chemins. C'est complexe. Mais dans tous les cas, elle arrive à ce que la mère, on lui dise,
ta fille est sodomisée par son père depuis des années.
Et tout d'un coup, c'est dit, etc. C'est entendu. Et effectivement, le truc le plus compliqué, je trouve, c'est que l'état de sidération dans laquelle est Rachel, à ce moment-là de l'histoire, l'état de sidération totale, comme elle dit, j'ai un morceau de cœur qui a gelé, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle a été, tac, tout d'un coup, comme si on l'avait... coup de baguette. Non, elle a plus rien, elle a plus de jus, elle peut plus parler, elle parle pas. Et c'est ça que je pense que sa fille lui reproche, c'est qu'après qu'elle ait réussi à ce que ça se dise, la mère ne parle pas, la mère n'arrive pas à parler. C'est
mais
ce
la fille,
truc-là.
Oui.
C'est là où elle m'en veut, je pense aussi terriblement. Comme elle dit, j'ai fait une infection des trompes parce que c'est sa seule réponse, c'est son corps qui parle. Mais à un moment, ce que je pense la fille lui reproche, c'est le courage de ne pas affronter aussi, de c'est terrible, je pense. Et le temps que ça met, tout le temps que ça met pour que la réconciliation, pour que la parole se dise, c'est très beau aussi. Voilà, ça fait partie des reproches qu'on fait, du chemin que la parole prend, comment elle s'est tout d'un coup, elle s'est tarie, et puis après, comment elle arrive à se repartir. Ben voilà, c'est tous ces mouvements aussi du film qui sont des mouvements de qui sont liés à cette histoire particulière que j'ai voulu traduire, qui est cette histoire particulière, fait aussi que c'est une histoire qui touche à des moments, de l'histoire de la vie des femmes, qui sont, où chaque femme, chaque homme peut prendre un bout de cette histoire, parce que je dis les femmes, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont vu le film et qui ont été touchés et on attrape, parce qu'évidemment, tous les hommes ne sont pas des salauds, mais ils peuvent comprendre, grâce à cette histoire, comment parfois les femmes sont mises à un endroit et ce qu'elles subissent. Et ça, c'est ça que je trouvais aussi important. C'est que justement, comme l'homme est tellement particulier dans sa folie narcissique, que les hommes peuvent voir le film pour justement comprendre d'autant mieux la relation de certaines femmes et comment elles sont complètement manipulées.
C'est vraiment l'amour pour la mère de quoi je suis partie. Mais de cet amour pour la mère, de toute façon, dans cet amour pour la mère, il y avait tout ça qui était contenu. L'amour, le sentiment, les sentiments ne sont pas des choses isolées de la politique. L'inconscient n'est pas quelque chose d'isolé de la politique. Il y a même une identité. Et ça, les hommes politiques le savent très bien. Les discours politiques sont faits de sentiments et font appel aux sentiments des gens. Bon. Donc dans l'amour pour la mère, c'est la même chose. Il y a de la politique. Dans l'amour qu'on a pour sa mère, il y a ça. Donc il n'y a pas besoin de chercher à faire une deuxième chose qui serait faire un roman, qui prendrait ça en compte, puisque c'est là, de toute façon. C'est là dans tout le tissage des vies soi-disant privées, il y a de toute façon ça. Donc personne n'y échappe. Voilà. On peut penser que l'amour pour la mère y échappe et qu'il est intouchable parce que il a là encore en peinture, les Pietà, les maternités, etc. Tout d'un coup ont l'air hors du monde, mais bien sûr qu'elles ne le sont pas.
C'est la voix de Christine Angot, Catherine Corsini au micro de Caroline Brouet en 2015 au moment de la sortie du roman Un amour impossible qui fait écho à l'une des dernières scènes de votre film dans laquelle la mère, désormais âgée, retrouve la fille, désormais femme et elle-même mère de famille et où elle se parle et où d'un seul coup on comprend que aussi le temps passé a été un temps pour elles parce qu'elles en ont eu la force, parce que cette jeune femme en a eu la force de penser et de théorisation de la douleur. Et par cette théorisation, d'une forme de mise à distance qui nous fait penser que peut-être elle ne sera pas complètement broyée, sa vie ne sera pas complètement broyée par la violence. Comment avez-vous pensé cette scène d'un point de vue cinématographique, Catherine Corsini, dans un café qui est comme une sorte d'enveloppe sonore qui les protège ?
Bon, déjà, c'est difficile de parler après avoir écouté Christine Angot parce qu'elle est d'une grande intelligence et d'une grande précision dans sa pensée. Évidemment, je voulais absolument faire cette scène finale qui pour moi a été essentielle et évidemment pour moi le fait de dire que cette histoire est comme elle l'a exprimé tout à l'heure est politique et faisait partie du projet. Je voulais pas que on reste sur un truc de sentimentalité, qu'on reste que sur un truc d'émotion. Je voulais que effectivement l'explication soit vraiment exprimée comme elle est exprimée dans le roman. Ça me paraissait essentiel. Et je sais que parfois des gens peuvent buter encore aujourd'hui là quand j'entends des réactions par rapport au film. Peuvent buter sur cette explication et
entre la mère et la fille.
Entre la mère et la fille et c'est symptomatique du fait par moment de ce que je constate depuis un moment du refus de certaines personnes, du refus de penser que les femmes justement puissent penser, puissent réfléchir, puissent affirmer quelque chose d'une manière j'allais dire politique, idéologique, etc. C'est comme si les femmes ne pouvaient faire des œuvres, ne pouvaient travailler, ne pouvaient produire que dans la sentimentalité. Alors là, je dis bullshit. J'en ai marre qu'on soit cantonné aussi à cet endroit-là. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, c'était important que c'est là où la fille, avec sa puissance, avec sa réflexion, et avec aussi ce qu'elle montre, c'est qu'elle est issue de cette mère et de cet homme. Et ça, il y a quelque chose de vertigineux, mais elle ne peut pas ne pas être le fruit de ces deux personnes. Elle ne peut pas ne pas exprimer et ne pas. Et c'est ça que je trouvais aussi intéressant à un moment, elle prend en charge aussi ce qu'elle est et elle explique devant le non-dit de sa mère qui est tellement insupportable. Elle essaye justement de lui montrer que cet état d'infériorité, ben maintenant faut que ça cesse, stop, faut mettre les mots, et pour sortir, je pense, du chaos dans lequel on vit. Enfin moi c'est comme ça aussi, c'est mon interprétation. Pour sortir du chaos, il faut pouvoir conceptualiser. Il faut pouvoir penser, il faut pouvoir exprimer, et sur cette pensée, on peut s'inscrire, on peut, j'allais dire, pour moi, c'est comme si on peut mettre les pieds sur quelque chose et on peut tenir debout à partir du moment où on exprime quelque chose d'une logique, d'une, voilà, et donc, ça, tout ce qu'elle explique, c'est que dans la façon du comportement de cet homme vis-à-vis d'elle, c'est aussi vis-à-vis de sa mère, c'est-à-dire que quand il touche la fille, c'est comme dans les batailles navales, hein, touche et couler, hein, il touche la fille, il fait couler la mère en même temps, et en même temps, c'est une position dominante, mais c'est une position sociale, c'est une position politique. Il y a quelque chose, et c'est là-dessus que je trouve que le film, il sort, il dépasse, il va plus loin, justement, tout d'un coup, il emmène, c'est là où rentre après l'histoire du mélo, mais rentre aussi l'histoire de la modernité. Le film est amené, c'est là où il traverse le temps, c'est qu'il est amené justement d'un endroit où on cantonnait les femmes dans une espèce d'imagerie, etc., dans laquelle elles étaient. Bon, elles se trouvaient sublimes, elles étaient sublimées, etc. Et puis après, dans cette espèce de courage qu'elles ont d'aborder le monde contemporain, parce qu'on leur demande et de travailler et d'assumer, etc. Et qu'elles font parce que c'est une espèce de, en même temps, de moment de libération. Mais après, c'est d'acquérir la pensée. Et que cette pensée, on leur laisse la place.
Et on sent que cette scène quasiment finale entre la mère et la fille est aussi une scène, oui, on l'entend Catherine Corsini, une scène manifeste qui dit qu'il y a quelque chose de salvateur dans la possibilité de penser sa douleur, qui fait que l'amour impossible du titre peut-être devenir possible. Je ne veux pas nécessairement conclure à une happy end, mais d'un seul coup autour de cette table-là, il y a une circulation d'amour qui est de nouveau possible.
Bah, c'est sûr que quand on incarne en plus, quand on incarne au cinéma une pensée par des acteurs, quand on incarne, par des actrices, quand on l'incarne par des personnages qu'on a vu évoluer de 27 ans jusqu'à la fin jusqu'à 75 ans, etc. Donc on est extrêmement attaché, on a quelque chose de une empathie quand même très forte, même si par moment le personnage peut nous agacer parce que c'est des personnages qui sont pas d'un bloc, et par moment on peut
tous aussi, d'ailleurs, hein, la mère comme dire, la fille,
mais,
comme
mais,
le père,
mais qu'est-ce sûr. Que tu fais, mais voilà. Et moi, je pense beaucoup au film de Nanni Moretti, par moment, quand il est dans Palombella Rossa, quand il est devant une des scènes du docteur Jivago, et qu'il voit Omar Sharif, et qu'il dit, mais, alors qu'il a vu le film 100 fois et qu'il l'adore, il lui dit, mais retourne-toi. Et moi, des fois, je me disais, mais regarde. J'avais envie. Et pourtant, je me disais, même ma scénariste, des fois, quand on écrivait, elle me disait, mais Catherine, tu sais très bien ce qui se passe. Je dis, oui, mais quand même. C'était là où j'étais tenue par le roman. Que je pouvais pas m'en dégager. Il y a des moments où je me dis, c'est pas possible qu'elle ne voit pas, ou c'est pas possible qu'elle ne dise pas.
Ça marche aussi, voilà. Pour les spectatrices et les spectateurs. Je peux vous dire que c'est un témoignage qu'on a partagé. Je vous remercie beaucoup, Catherine Corsini. Un amour impossible, c'est le titre donc de ce film. Il sort en salle le 7 novembre. J'avais à cœur quand même de citer les quatre comédiennes qui interprètent Chantal depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Sacha Alessandri Torres Garcia, Ambre Azage, Estelle Lescure, Jenny Bette, et je ne cite pas les bébés parce que je ne trouve pas leur nom, mais elles sont présentes aussi.
Merci à ces jeunes filles qui ont toutes été magnifiques, vraiment, merci.
Au son ce soir, c'était Pierrick Monsigny, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture. Quand vous voulez, sur franceculture.fr pour le podcast, la réécoute, les références des archives et les musiques. Un très grand merci à Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Je vous souhaite une très belle soirée sur France Culture.